2 Corinthiens, chapitre 3. Nous ferons notre lecture à partir du verset 6. Il nous a aussi rendu capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Or, si le ministère de la mort gravé avec des lettres sur des pierres a été glorieux, au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse, à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère, combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux? Si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est de beaucoup supérieur en gloire. Et sous ce rapport, ce qui a été glorieux ne l'a point été à cause de cette gloire qui lui est supérieure. En effet, si ce qui était passager a été glorieux, ce qui est permanent est bien plus glorieux. Ayons donc cette espérance, nous usons d'une grande liberté. Et nous ne faisons pas comme Moïse qui mettait un voile sur son visage pour que les fils d'Israël ne fixassent pas les regards sur la fin de ce qui était passager. Mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament, et ils ne se lèvent pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur les cœurs. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Amen. On va s'arrêter ce matin principalement sur un verset, c'est le verset 17 que je vais relire. « Or le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. » Il y a environ 15 jours, 3 semaines, j'ai eu à cœur ce verset et de vous l'apporter. Et puis, pour ceux qui étaient là samedi dernier, à la session que nous avons eue le samedi avec le pasteur Patrick Boudéen, à un moment donné de la soirée, il a parlé de ce verset. Je ne sais pas si vous en rappelez, pour ceux qui étaient là. En tout cas, moi, puisque j'avais déjà ce verset à cœur, je m'en rappelle. Il a cité ce verset 17, « Le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. » Un verset de la parole de Dieu tellement important qui nous révèle quelque chose, c'est que la présence du Saint-Esprit dans un endroit particulier, dans cet endroit où il peut agir, apporte la liberté. Néanmoins, pour retirer le maximum de ce verset, il est important de lire tout ce qu'il y a avant et ce qu'il y a après. On aurait même pu continuer à lire ce qui est au début du chapitre 4 où l'apôtre Paul parle de son ministère, il parle de l'intelligence obscurcie de certains qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de Christ à cause justement de ce voile qui est dans leur cœur qui les empêche de réaliser la splendeur de cet évangile de la gloire de Christ. À partir du verset 6, l'apôtre Paul fait une comparaison entre le ministère de l'ancienne alliance et celle de la nouvelle alliance. Il parle au verset 6 de cette nouvelle alliance, qui était une nouvelle alliance, de l'ancienne alliance, excusez-moi, qui est selon la lettre. Or, celle de la nouvelle alliance est selon l'esprit. Et là, il met une différence évidente. Il dira que la lettre tue, mais l'esprit vivifie, et c'est ce que faisait effectivement la loi de Moïse, qui ordonnait à plusieurs, dans plusieurs cas, de mettre à mort, de lapider ceux qui transgressaient cette loi. Et encore aujourd'hui, lorsque l'on devient légaliste, lorsque l'on cherche sa justification dans l'application d'une loi, cela apporte la mort, c'est-à-dire une séparation avec Dieu, puisque ce n'est pas ainsi que l'on peut être agréable à Dieu. D'ailleurs, l'apôtre Paul, au verset 7, l'appelle le ministère de la mort. Il emploie un terme fort pour bien que nous puissions comprendre quel était ce ministère, le ministère de la mort, en comparaison avec cet autre ministère de la nouvelle alliance qui est, lui, il vivifie. Ce ministère, il l'appelle aussi le ministère de la condamnation, au verset 9, en comparaison ou en contraste avec le ministère de la justice de la nouvelle alliance. Une différence entre la condamnation et la justice. Et il dira que ce ministère de la mort, ce ministère de la condamnation, a quand même été glorieux. Il a été glorieux. Il cite même ce qui s'est passé sur le visage de Moïse lorsqu'il entrait dans la présence de Dieu, il en ressortait, son visage rayonnait de la gloire du Seigneur, à tel point qu'il était obligé de se mettre un voile sur son visage pour que les enfants d'Israël ne fixent pas les regards sur ce qui était passager. Et ça, c'est encore une différence majeure entre l'ancienne alliance et la nouvelle, puisque c'était passager. Mais maintenant, c'est permanent. Que Dieu soit béni. Alléluia. Et si ce ministère de l'ancienne alliance a été glorieux, le ministère de la nouvelle alliance est bien plus glorieux. Sa gloire est tellement immense qu'elle efface la gloire de l'ancienne alliance face à la gloire du Seigneur. Cette gloire de l'ancienne alliance fait pâle figure. Et c'est à cela, c'est à cette gloire-là que le Seigneur nous a appelés. Ayons donc cette espérance, nous usons d'une grande liberté. Le Seigneur a fait son œuvre dans nos cœurs. Et il a inscrit, il a écrit sa loi, sa volonté dans nos cœurs, dans notre esprit. Il les a gravés en nous. Dans l'ancienne alliance, c'était gravé sur des tables de pierre, mais maintenant c'est gravé sur les tables de chair, sur nos cœurs, que son nom soit glorifié. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Là est la liberté. La question qui se pose, c'est de quelle liberté il s'agit. De quelle liberté il s'agit. Il est vrai que dans l'ancienne alliance, il n'y avait pas de liberté comme nous pouvons l'avoir maintenant. La loi de Moïse codifiait non seulement, j'allais dire, le relationnel avec Dieu, on ne pouvait pas faire n'importe quoi en s'approchant avec Dieu, devant Dieu, il fallait même offrir des sacrifices, il y avait tout un rituel à respecter, et aussi pour les Lévites et les sacrificateurs qui servaient au tabernacle. Mais ça ne s'arrêtait pas là. La loi de Moïse codifiait la vie familiale, elle codifiait la vie en société, elle codifiait le travail, les affaires. Tous les domaines de la vie, eh bien, étaient inclus dans cette loi de Moïse. Et, j'allais dire, celui qui transgressait une de ces lois, non seulement la loi qui nous relie à Dieu, mais aussi celle qui nous relie les uns et les autres, cette personne-là était sanctionnée, et sanctionnée parfois gravement, même jusqu'à la mort. Il y avait donc toujours cette appréhension, imaginons-nous ce que ce pouvait être de vivre sous le joug d'une telle loi. D'ailleurs, eh bien, c'est écrit dans la Bible que nos pères n'ont pas pu porter un tel joug. Il fallait faire attention à tout. Même dans la vie conjugale, il fallait faire attention. Donc, il y avait toujours une pression qui était là. Il n'y avait pas de liberté. Le jour du sabbat, il fallait faire attention à ne pas dépasser certaines limites exigées par la loi. Et puis, en plus, non seulement la loi déjà était exigeante, mais il s'était rajouté en plus des traditions humaines à tout cela. Comme ça, s'y suffisait pas. Quelle liberté avait-il ? Quelle liberté avait-il ? Maintenant, nous avons cette liberté de nous approcher du Dieu vivant et vrai. Alléluia. Merci Seigneur. Parce que Jésus a tout accompli sur la croix. Il a accompli le sacrifice parfait sur la croix afin que nous puissions nous approcher de Dieu en toute liberté. Afin que nous ayons la liberté de le servir. Il a fait de nous un peuple, des sacrificateurs pour Dieu son Père. Seulement quelques personnes étaient habilitées à offrir des sacrifices. Le roi Saül, à un moment donné, eh bien, a voulu offrir des sacrifices. On voit que cela lui a coûté cher. Mais maintenant, nous sommes des sacrificateurs les uns et les autres pour Dieu notre Père, nous avons donc cette liberté de servir le Dieu vivant et vrai, que son nom soit glorifié. Et puis parlons quand même de cette liberté que le Seigneur a opérée dans nos cœurs. L'apôtre Paul le dit par ailleurs dans Romains chapitre 8, verset 2. Romains chapitre 8, verset 2. On peut même lire le verset premier. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Alléluia. Voilà un esclavage qui est terrible. C'est celui du péché et de la mort. Mais maintenant, nous avons été affranchis de cela. Nous étions autrefois sous cette condamnation dont je parlais brièvement tout à l'heure. C'était le ministère de la condamnation. Il y avait une condamnation qui était là. Nous en avons un bel exemple avec cette femme surprise en flagrant délit d'adultère dans les évangiles. On voit eh bien que des hommes ont apporté à Jésus cette femme surprise en flagrant délit d'adultère déjà. Il y a une anomalie dans l'histoire. Si c'est un flagrant délit, où est l'homme ? Pas très juste tout ça. Pas très juste tout cela. Ils étaient injustes. Bref. Alors, ils apportent cette femme. La loi de Moïse nous dit de lapider de telle femme. C'est le ministère de la mort. C'est le ministère de la condamnation. Et toi, que dis-tu ? Parce que la loi, en fin de compte, qu'est-ce qu'elle nous dit ici ? Si on est transgresseur d'une seule loi, on se rend coupable de tous. On se rend coupable de tous. Ça, c'est le ministère de la condamnation. Alors Jésus va leur dire, mais que le premier qui n'a pas péché jette la pierre contre elle. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ils avaient tous quelque chose à se reprocher. Ça, c'est le ministère de la condamnation. Que va dire Jésus à cette femme ? Va. Donc il la renvoie libre, avec une recommandation quand même, ne pêche plus. Va et ne pêche plus. Il va libérer cette femme de la condamnation. Il va libérer cette femme de cette mort certaine. Si Jésus n'avait pas dit cela, cette femme aurait été lapidée. Mais Jésus va libérer cette femme. Jésus est celui qui nous libère d'une condamnation qui est juste en plus. Mais il nous libère de cela parce que lui a payé le prix sur la croix. Et non seulement cela, mais Jésus nous libère de l'esclavage du péché. Ne pêche plus. Vous voyez, ne pêche plus. C'est pas si facile. Pourquoi a-t-elle trompé son mari? Est-elle heureuse dans son couple? Elle a eu des sentiments pour un homme qui n'était pas son mari. Il faut donc qu'elle se défasse de ces liens-là qui touchent ses sentiments, qui touchent sa vie de tous les jours. Donc, c'est pas si évident d'être dégagé de l'asservissement du péché. Mais quand Jésus nous libère du péché, il y a là vraiment quelque chose qui s'opère qu'on ne peut pas de nous-mêmes faire. Jésus nous libère de la puissance du péché, de l'esclavage du péché. Alléluia. Sommes-nous esclaves d'un péché? Jésus est celui qui nous libère par le Saint-Esprit. Sommes-nous esclaves d'une passion, d'une addiction quelconque? Jésus est celui qui nous libère. Sommes-nous esclaves de la cigarette? Jésus libère. Sommes-nous esclaves de l'alcool? Jésus libère. Sommes-nous esclaves d'une addiction particulière? Jésus est celui qui libère. Il libère de la pornographie, il libère de toutes ces choses. Certains se débattent avec des liens qu'ils ont à l'intérieur d'eux, mais j'aimerais vous dire que Jésus libère. Sommes-nous esclaves d'un lien démoniaque? Entendons-nous des voix parfois? Sommes-nous là, dans notre tête, obsédés par certaines pensées? Jésus libère de cela aussi. Il libère de la puissance des ténèbres. Que son nom soit glorifié, car il a remporté une éclatante victoire. Sommes-nous tenus, sommes-nous ficelés, sommes-nous tenus par la superstition? Ça aussi, ça rend esclave. La superstition, la culpabilité. Jésus nous libère de tout cela. Alléluia, que son nom soit béni. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Et nous tous qui le visage découvert, nous contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Mardi soir, nous avons parlé de la contemplation avec ce verset 18 comme verset d'introduction. C'est vrai que nous sommes libres maintenant de le contempler, de l'admirer, d'être là devant lui et tellement émerveillé de sa grandeur qu'en fin de compte, on n'a même plus rien à dire que dire « Seigneur, sois béni parce que tu es merveilleux ». Oui, notre Seigneur est merveilleux, que son nom soit glorifié. Et puis, il y a une autre liberté dont j'aimerais vous parler. C'est la liberté entre nous. La liberté entre nous. Ça fait peut-être un peu écho à ce que nous avons vécu la semaine dernière, le week-end dernier. La liberté entre nous. Sommes-nous libres les uns vis-à-vis des autres? Ou sommes-nous tenus par certaines craintes que nous pouvons avoir les uns vis-à-vis des autres? Ou certains, qu'en dira-t-on? Ou certains préjugés que nous pourrions avoir les uns vis-à-vis des autres? Le Saint-Esprit apporte une liberté entre nous. Après avoir dit qu'est-ce que la liberté, de quelle liberté nous parlons, posons-nous la question, où est l'Esprit du Seigneur? Puisqu'il est écrit, là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Donc une autre question se pose à nous. Où est l'Esprit de Dieu? Vous allez me dire, et c'est vrai, en tout lieu. C'est exact. Dieu est partout. Mais il agit d'une manière particulière à certains endroits. Ça, on en est bien conscient. Alors, bien sûr, il est en celui ou en celle qui a cru en Jésus. Il faut d'abord avoir ouvert son cœur au Seigneur, être, j'allais dire, passé par la croix, il en a été question tout à l'heure, avoir fait la paix avec Dieu, et cela, ça a été aussi l'œuvre du Saint-Esprit qui nous a convaincus de péché et qui nous a conduits au Seigneur. Jésus ne nous a pas laissés orphelins, mais il nous a envoyé le Saint-Esprit, appelé aussi le Consolateur. Nous pouvons lire dans Jean 16, verset 7. Jean 16, verset 7. « Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Il nous l'envoie. Verset 13. « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. » Seigneur, nous envoie donc, eh bien, cet Esprit, le Consolateur, l'Esprit de vérité. Et cet Esprit de Dieu est en celui et en celle qui a cru. Tous les enfants du Seigneur sont nés de l'Esprit. Amen, c'est la nouvelle naissance. Il y a l'Esprit de Dieu qui est en eux et qui fait son œuvre. Jésus l'appelle le Consolateur, l'Esprit de vérité. Or, si nous lisons encore dans d'autres passages, vous pouvez noter dans Jean 8, 32, Jésus dira « Vous connaîtrez la vérité ». Vous connaîtrez la vérité. Et quoi? Qu'est-ce qu'il rajoute juste après? Et cette vérité, qu'est-ce qu'elle fait? Elle vous affranchira. C'est-à-dire qu'elle nous libère. Le Saint-Esprit nous conduit dans la vérité parce que sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas connaître la vérité. Revenons à notre passage d'introduction de tout à l'heure avec Jean, avec le chapitre 4. On voit, il parle de l'intelligence obscurcie dans l'Ancien Testament. Ils ne pouvaient pas comprendre parce qu'il y a un voile sur leur cœur. Ils n'étaient pas conduits dans toute la vérité. Et c'est pour cela qu'ils étaient encore esclaves. Mais c'est en Christ que ce voile disparaît, selon que s'écrit l'apôtre Paul. Et ça, c'est l'action du Saint-Esprit dans les cœurs qui nous révèle la splendeur de Jésus. Alléluia. Tout est accompli en Jésus. Tout est accompli en Jésus. Il nous conduit dans cette vérité-là, et cette vérité, elle nous libère. Elle nous libère de tout ce légalisme, elle nous libère de la culpabilité, elle nous libère du poids du péché, elle nous libère de l'esclavage du péché, elle nous libère de toutes ces passions-là. Merci Seigneur pour ta vérité, de tous les mensonges que le diable veut nous inculquer dans nos cœurs. La vérité nous libère de tout cela. Merci Seigneur, que son nom soit glorifié. Donc, il y a la présence du Saint-Esprit en ceux et en celles qui ont cru. Et si nous avons besoin d'une victoire, nous savons que le Seigneur est celui qui nous libère par le Saint-Esprit. Que son nom soit glorifié. Ah, quel bonheur de se sentir libre. Quelle grâce que nous accorde le Seigneur. Deuxième point. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté, donc dans nos cœurs. Mais n'est-il pas aussi dans la communion fraternelle? Vous connaissez le psaume 133 par cœur. Voici qu'il est doux, qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. Puis après, il est parlé de l'huile. Vous savez que l'huile, dans la Bible, c'est le symbole du Saint-Esprit. C'est comme cette huile qui est répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron. Hein. Et donc, il est question du Saint-Esprit là. C'est là que le Seigneur envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Donc, il y a la présence du Saint-Esprit dans la communion fraternelle, où il se manifeste d'une manière particulière dans la communion fraternelle. Un autre exemple, c'est Acte 2. Ils étaient tous ensemble réunis. Et puis, le Saint-Esprit est descendu sur tous ceux qui étaient réunis ce jour-là, hein, et puis à partir de ce moment-là, ça a été le départ de la grande mission de l'Église. Ils étaient réunis dans le nom du Seigneur, parce que c'est pas tout d'être réunis. On est réunis dans le nom du Seigneur. Ce que nous avons en commun, C'est Jésus. Amen. C'est une réalité spirituelle. Nous partageons Jésus ensemble. Oui. Et ce que nous avons fait, la Sainte-Seine, n'est que le symbole, la représentation, si vous voulez, matérielle d'une réalité qui, elle, est spirituelle. C'est que, en fin de compte, il n'y a qu'un seul Jésus. Il n'y a qu'un seul Jésus. Et nous partageons Jésus. Hein, et nous avons ça en commun. Vous voyez ? Le pain, nous avons chacun pris un morceau de pain, mais ça vient du même pain. Vous voyez ? Il ne suffirait pas de prendre la Sainte-Seine matériellement pour que ça devienne une réalité spirituelle. Là, on inverse les choses. C'est parce que c'est une réalité spirituelle que ce que nous faisons matériellement prend tout son sens pour nous. Prend tout son sens pour nous. Alors, c'est Jésus que nous avons en commun. Et si Jésus est en commun au milieu de nous, si nous sommes réunis en son nom, alors nous sommes sûrs d'une chose, c'est qu'il est présent au milieu de nous. Or, comme dit l'apôtre Paul, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Jésus est au milieu de nous, son Esprit agit dans nos cœurs et il apporte cette liberté dans la communion fraternelle, cette liberté entre nous dont je parlais tout à l'heure. Sauf que parfois, c'est pas si évident que ça. Parce que, nous avons nos propres problèmes, les uns et les autres. Nous avons nos propres faiblesses, peut-être aussi. Mais nous devons travailler à ce que, cette communion fraternelle, puisse être vécue dans cette liberté de l'esprit. J'aimerais avec vous prendre un ou deux exemples dans Galates chapitre 2. Galates chapitre 2, verset 4. Et cela à cause de faux frères qui s'étaient furtivement introduits et glissés parmi nous pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ, avec l'intention de nous asservir. Vous voyez ? Verset 5. Nous ne leur cédâmes pas un instant et nous résistâmes à leur exigence afin que la vérité de l'Évangile fût maintenue parmi vous. Qu'est-ce qui s'est passé ici? On sait que l'apôtre Paul a eu un ministère auprès des païens. Il en parle un peu plus loin. Il dira que Pierre a été l'apôtre des circoncis et lui, au verset 8, l'apôtre des païens. Et donc, le message de l'Évangile libère de cette loi de Moïse dont on a parlé tout à l'heure en introduction. Et seulement, ça ne plaisait pas à certains qui ont voulu réintroduire certaines choses afin de les asservir. Ils voulaient les obliger à observer, entre autres, la circoncision, mais pas seulement, mais ils voulaient les asservir. Ils usaient d'une grande liberté. Et il voulait les asservir, mais l'apôtre Paul dira, nous n'avons pas cédé un instant, et nous avons résisté à leur exigence, parce que ça tue. C'est le ministère de la condamnation, c'est le ministère de la mort. Et l'apôtre Paul ne voulait pas de cela. Il ne voulait pas de cela. Lisons un peu plus loin, au verset 12. En effet, verset 11. « Mais lorsque Céphas vint à Antioche, je lui résistais en face parce qu'il était répréhensible. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques, il mangeait avec les païens, et quand elles furent venues, il s'esquiva et se tint à l'écart par crainte des circoncis. Avec lui, les autres juifs usèrent aussi de dissimulation, en sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. » Verset 14, « Voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'Évangile, je dis à Céphas en présence de tous, si toi qui es juif, tu vis à la manière des païens et non à la manière des juifs, pourquoi forces-tu les païens à judaïser ?» On voit ici qu'il y a eu vraiment un problème, un malaise qui a fait que les frères et sœurs ne se sentaient pas libres les uns vis-à-vis des autres. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait des personnes donc qui étaient de l'entourage de Jacques et qui sont arrivées, et Pierre, appelé Céphas aussi, s'est esquivé à un moment donné. Il avait la crainte. Il n'était plus dans la liberté, là. Il n'était plus dans la liberté. Il était dans la dissimulation, et pas simplement Pierre, d'autres avec, et non seulement d'autres, mais aussi Barnabas. Barnabas qui a été un compagnon de Paul pendant quelques années, qui a été avec Paul dans des missions, qui a entendu le plein évangile, cet évangile qui libère les cœurs. Et Barnabas même a été entraîné par cette hypocrisie. Il n'y avait pas cette liberté ils se regardaient les uns les autres, ils s'épiaient les uns les autres, ils se craignaient les uns les autres. On comprend pourquoi l'apôtre Paul a dû réagir d'une manière un peu énergique afin de rétablir la vérité. Voyez que ça peut revenir vite, qu'il ne suffit pas de dire que nous sommes enfants du Seigneur pour que cette réalité de la liberté entre nous soit vraiment vécue comme telle. Il nous faut veiller constamment à ce que cette liberté de l'esprit puisse s'épanouir au milieu de nous. L'apôtre Paul dira encore aux Galates, une épître vraiment très précieuse sur ce sujet, au chapitre 5, verset 1er, « C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. » Voilà le problème des Galates. Ils s'étaient mis de nouveau sous le joug de la servitude, sous ce joug de ce ministère de la mort, de ce ministère de la condamnation, de cette lettre qui tue et qui amène l'hypocrisie, qui amène la crainte, mais qui n'apporte pas cette véritable liberté des enfants de Dieu. C'est pour la liberté que Christ nous a libérés. Alléluia, merci Seigneur. Nous ne voulons pas nous laisser asservir par quoi que ce soit. Alors, c'est notre responsabilité aux uns et aux autres de veiller sur notre cœur afin que vraiment toujours le Saint-Esprit puisse agir pleinement en nous et que nous puissions être libérés de toutes nos craintes. Et c'est notre responsabilité aussi commune de veiller à ce que la présence du Saint-Esprit au milieu de nous soit effective et agisse dans nos cœurs afin que nous puissions être libres. Cette liberté-là est canalisée par l'amour. Non seulement elle est canalisée, mais il ne peut y avoir de liberté sans amour. Il ne peut pas y avoir de liberté sans amour. Toujours dans la même épître, au chapitre 5, verset 13. « Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Mais rendez-vous par amour, serviteurs les uns des autres. » Vous voyez, le lien qu'il y a entre la liberté et l'amour. L'amour des autres. L'amour nous engage toujours. L'amour nous engage vis-à-vis des autres. Nous avons été appelés à la liberté. Et il y a une liberté entre nous. Et ce qui va canaliser cette liberté entre nous, parce que sous prétexte de liberté, on pourrait même manquer de respect. Mais si on aime quelqu'un, on ne va pas lui manquer de respect, vous voyez. Et cet amour-là, c'est quoi ? Il vient de quoi ? Du Saint-Esprit, hein ? Puisqu'un peu plus loin, toujours dans la même épître, au même chapitre, l'apôtre Paul parle du fruit de l'Esprit. C'est-à-dire ce que va produire le Saint-Esprit en nous, hein, au verset 22, le fruit de l'Esprit, c'est l'amour. Alléluia ! Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour. C'est ce que va produire le Saint-Esprit, c'est pour ça qu'on en revient encore. C'est là où est l'Esprit de Dieu, là est la liberté. Amen. Si le fruit de l'Esprit est manifesté en nous et au milieu de nous, alors oui, nous usons d'une grande liberté dans cette mentalité d'amour, dans cet état d'esprit d'amour, que Dieu soit béni. Veillons donc sur la présence du Saint-Esprit dans nos cœurs. L'apôtre Paul dira à Timothée, ce n'est pas un esprit de timidité que le Seigneur nous a donné. Un esprit de timidité, ça ne nous rend pas libres, ça nous tient. Quelqu'un de timide, il n'ose pas aller vers les autres, il n'ose pas s'exprimer. Voilà, il n'est pas dans cette liberté. L'apôtre Paul dira à Timothée, il avait certainement besoin de l'entendre, que l'Esprit de Dieu, ce n'est pas un esprit de timidité, au contraire. Mais son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. Que Dieu soit béni, alléluia. Donc il exhorte Timothée à ranimer cette flamme. À ranimer cette flamme. La flamme qui avait quelque peu diminué à cause de la timidité qui était dans le cœur de Timothée et qui empêchait cette flamme de briller bien haut. Alors là où est l'Esprit de Dieu, là est la liberté et c'est là notre prière, Seigneur. Prends toute la place dans nos cœurs, alléluia. Prends toute la place dans l'Église. Fais ton œuvre, Seigneur. Fais ton œuvre dans nos cœurs. Conduis-nous sur les sentiers de la vérité. Conduis-nous dans toute la vérité, afin que nous puissions réaliser la splendeur de Christ, que nous puissions découvrir combien il est merveilleux, notre Seigneur, que nous puissions aussi découvrir quel est l'état de notre cœur et ce que nous devons aussi changer dans nos vies, changer dans notre comportement, changer entre nous, afin que le Saint-Esprit soit libre aussi de pouvoir faire ce qu'il veut, à lui seul soit toute la gloire. Amen. Merci Seigneur Jésus, que ton nom soit glorifié pour la présence du Saint-Esprit. Tu ne nous as pas laissés orphelins, mais tu nous as envoyé le Saint-Esprit par lequel nous disons Abba Père. Tu as écrit tes lois, Seigneur, dans nos cœurs, tu les as gravées dans nos cœurs, dans notre esprit. Et nous te bénissons pour cela. Ah Seigneur, merci de nous avoir libérés de l'esclavage de la mort, de l'esclavage du péché, des craintes des hommes et de toutes sortes d'asservissements. Seigneur, tu nous libères encore et toujours. Tu fais ton œuvre par ton Saint-Esprit dans nos cœurs et au milieu de nous, Seigneur. Nous voulons vraiment te laisser toute la place, Jésus. Gloire à ton nom, Jésus. Amen.